J'avais quelque chose que j'aimerais évoquer moi-même par rapport au travail de Latifa. Je vais essayer, sans me perdre, de dire quelque chose là-dessus. Et surtout que je dois remercier Latifa parce que ça fait 2 ans qu'elle m'a invité pour faire pareil, pour intervenir et discuter de son travail avec elle à Paris. Et j'ai dû, comme Jean-Pierre, désister au dernier moment. Et donc je remercie Latifa parce qu'elle a insisté. Et donc, du coup, cette fois-ci, j'ai accepté son invitation. Et en réfléchissant, le mot qui est venu, en fait, ce dernier jour, en pensant à ses interventions, c'était justement entre mon désistement et ton insistance, ou l'insistance de Latifa, c'était le mot résistance. Et pourquoi le mot résistance? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans au fond, peut-être c'est le propre de toute œuvre d'art, mais dans l'œuvre de Latifa ou dans sa pratique, il y a quelque chose qui résiste au niveau du sens, en quelque sorte. Et surtout, il me semble quelque chose qui est de l'ordre de la résistance à l'écriture. Enfin, donc, j'en parle parce que ça suppose, comment dire, une certaine difficulté aussi une certaine réflexion sur comment justement interpréter, comment réfléchir et comment analyser, comment interpréter son travail. Et il me semble que c'est assez présent, même enfin, parce que j'ai eu l'occasion hier soir de lire ce catalogue, cette monographie de ton travail qui vient de sortir cette année, n'est-ce pas, depuis peu. Et on voit évidemment l'encre enfin, renversée sur cette image, peut-être tu peux en parler par la suite. Sur la couverture, donc cette question justement de l'encre avec laquelle on écrit qui revient et une certaine idée que j'avais été confirmée justement dans le très bel entretien que tu as fait avec Bernard Marcadet et que je trouve que justement qu'on en est seul et on est en bonne compagnie pour réciter cette anecdote, cette citation de Andy Warhol, que tu parles très bien de ton propre travail. Mais il y a quelque chose que je trouvais qui était effectivement intéressant par rapport à cette question de l'écriture et qui est dans l'exposition, c'est ce chapeau d'encre et que j'avais vu brièvement lors du vernissage. Et je n'avais pas vu tout de suite cette référence, et il y en a beaucoup évidemment dans ton travail, cette référence à l'artiste Marcel Boutas et son film Le Puits, un projet pour un texte, n'est-ce pas, si je me souviens bien, c'est bien le titre de cette pièce. Ce film de 1969 où on voit Boutas en train tel sif. En train désespérément d'écrire pendant qu'il y a de l'eau qui tombe en guise de pluie et qui n'arrive pas à garder trace de son écriture. Et je pensais aussi à cette, surtout une œuvre qui m'interpelle chaque fois que j'y pense, et ce soir que tu m'avais donné cette petite brochure qui vient de Los Angeles. C'est ton exposition actuelle, n'est-ce pas? Tu étais à Los Angeles pour le vernissage la semaine dernière, avec cette pièce que tu n'as pas choisie justement de montrer cette fois-ci, mais qui est un peu emblématique, si j'ose dire, de ton travail, et qui est cette pièce qui s'appelle « À chaque stencile, une révolution », qui est une citation, enfin pour aller rapidement, de Yasser Arafat, qui parlait de l'utilisation dans les années 60 de ces machines à polycopie, ou en tout cas duplicateur, n'est-ce pas, à alcool, qui a été remplacé par la suite par la photocopieuse et qui était utilisé à l'époque pour distribuer les tracts politiques en Palestine dans les années 60, d'où la citation de Yasser Arafat, chaque stencil. À chaque stencil, pardon, une révolution. Et ce geste que tu as fait, je ne sais pas si vous le connaissez, cette œuvre de Latifa. Enfin, on aurait dû justement préparer peut-être l'image, mais peut-être tu peux le décrire Où est-ce que tu veux que je le fasse?
Je peux le décrire en fait. On avait fait le pari de faire une discussion sans images. Donc, voilà, grosso modo. Pour décrire peut-être la pièce assez rapidement, c'est une pièce qui se compose de papier carbone bleu au format A4. Donc, c'est des feuilles assez légères qui ont un film en cire d'un côté. Et sur la face, c'est un pigment de carbone bleu. Et tout le mur. À chaque fois qu'elle est présentée, tout le mur où elle est présentée, ou l'ensemble des murs, est recouvert de ces feuilles de papier carbone qui sont placardées un peu comme ça, de façon très pas très précautionneuse. Donc on voit des traces de doigts, les traces de colle, de rouleaux qui ont servi à appliquer les feuilles. Donc on n'est pas du tout sur un wall painting lisse quelque part. Et également, les feuilles elles-mêmes ont des différences de pigmentation en fonction des paquets, même si c'est la même marque. C'est plus ou moins bleu à chaque fois. Donc ça donne un peu des différences, comme ça, un peu une vibration comme ça de bleu. Et à hauteur humaine, c'est-à-dire
Peut-être tu peux là.
voilà, à ma hauteur, j'ai jeté, lancé, giclé de l'alcool à brûler. Donc j'ai fait plusieurs couches comme ça d'alcool à brûler dessus. Et en coulant, l'alcool emporte le pigment de l'encre qui se retrouve au sol, et les feuilles de papier carbone se retrouvent délavées. Donc ça donne une espèce comme ça d'aura, un peu de halo comme ça bleu ciel sur ce fond de bleu sur de bleu sombre. Et au sol, il y a les résidus bleus. Donc voilà pour la description technique.
Mais ça m'a toujours justement sagesse, puisque c'est une œuvre qui date, enfin la première fois que tu l'exposais, ça date de quelle époque? C'est quelle année?
2007.
2007, oui. Et depuis, enfin je reviens toujours, puisqu'il me semble qu'il y a dans ce geste, enfin évidemment il n'y avait pas d'écriture, c'est pas comme si les papiers carbone contenaient déjà de l'écriture ou l'écrit. Mais justement, en réfléchissant, j'ai trouvé une très belle phrase, et je suis désolé parce que je n'ai pas noté la référence, mais quelqu'un qui parlait justement, qui avait parlé de ce travail ou cette œuvre, et c'était en anglais, en parlant justement de ce tract polycopié ou rognotypé, comme on dit en français, et la phrase parlait justement de ce feuille de carbone ou de papier carbone en disant robbed of their potential to carry meaning. Ça veut dire dépouillés de leur potentiel ou capacité à transmettre ou à transporter, transmettre un message, et any meaning, ça veut dire un message quelconque, comme si. Évidemment, on parle de message et on parle effectivement en référence à ce tract politique dans les années 60. Et donc, du coup, je me suis posé la question, justement, quel est ce geste de vouloir effacer, en quelque sorte, ou disons, gommer, ou mettre en retrait l'écriture. Et j'en parle, puisque, du coup, ça pose aussi la question à savoir comment lire et comment, qu'est-ce qui reste à lire, justement, dans cette œuvre. Si ce n'est que le titre, enfin la citation de Yasser Arafat lui-même, et peut-être ce qui est devant nous quand nous sommes face à cette œuvre, c'est ça qui m'est intéressé, parce qu'à un moment donné, comme tout le monde cite, tout le monde, enfin j'exagère, mais j'ai vu à plusieurs reprises cette référence aussi à Yves Klein, chose qui, me semble-t-il, est extrêmement importante. Peut-être pas Yves Klein, mais les références en tout cas historiques dans ton œuvre est extrêmement importante, et je voulais justement peut-être revenir là-dessus, puisque Bourtas, évidemment, Marcel Bourtas, étant une référence dans plusieurs de tes pièces. Et c'est très curieux parce que justement, en cherchant un peu l'histoire, enfin, de cette machine, le rognot, comme on dit en français, ou comment dire, les duplicateurs à alcool. Et évidemment, c'était assez beau, puisque dans Dans l'entrée Wikipédia, on parlait justement de ce phénomène de Madeleine de Marcel Proust, de l'odeur, n'est-ce pas, des rognons de l'époque, à la fois les feuilles rognotypées, qui avaient cette odeur d'alcool. Et aussi cette couleur de l'écriture ou de l'écrit qui était cette couleur violacée, mauve. Et c'était justement ce que j'ai appris, c'est que le couleur même des papiers carbone venait de ce qu'on appelle, et tu peux me corriger si je le prononce, pas correctement, mais le mauveïne. N'est-ce pas? C'est ça le teinture ou le colorant qui est utilisé justement pour fabriquer les papiers carbone. Et c'est très intéressant parce que justement, si finalement il y a cette couleur à lire, alors qui est un peu différent justement que l'autre mer et le bleu de Klein, mais très similaire, si on remonte dans l'histoire, ces couleurs même nous raconte une histoire. Enfin, il y a une histoire, et une histoire qui est assez curieuse et très liée. Enfin, c'est quelque chose que j'ai trouvé hier et avant-hier. Donc, c'est très fascinant parce qu'il y a toute une histoire justement entre l'Occident et l'Orient, l'histoire du colonialisme qui entre en jeu même dans la lecture de cette couleur ou ce produit. Puisque c'était la première teinture synthétique qui était inventée en 1856 en Angleterre. Enfin, c'était un jeune étudiant au Royal College of Chemistry qui, par hasard, a trouvé cette teinture qu'il avait cherchée, parce qu'il y avait à l'époque un concours pour trouver une manière de produire ce qui, à l'époque, était le quinine ou le sulfate de quinine qui était utilisé pour soigner le paludisme à l'époque et soigner les soldats anglais de l'Empire britannique à l'époque qui étaient stationnés en Inde, qui était assez curieux. Et lui, il se trouvait, enfin, je ne vais pas non plus entrer dans tous les détails chimiques de la chose, mais c'était donc du coup, en cherchant à produire de façon synthétique traitement, ce médicament, et il se trouvait à un moment donné renversé sur ce qui était un pacte goudronneur ou goudronneuse de l'alcool, et ça, les gouttes de ce produit chimique, tombait sur ses vêtements, attachait ses vêtements, puisque finalement il a constaté que c'était un pile, ce qu'il avait produit, avec cette couleur très vive et violacée qui est le couleur de cette teinture mauveïne, qui est devenue très populaire à la fin du 19e siècle. Il y avait même dans les années 70, la reine Victoria qui avait porté justement une robe avec cette couleur. Et donc, du coup, très proche d'ailleurs, parce que je trouvais que, du coup, l'association avec l'origine même de l'autre mer et le bleu d'Yves Klein, qui finalement nous ramène aussi à pas loin de Lyon, en tout cas, à Fleuriot-sur-Saône, en passant par l'Afghanistan, l'Extrême-Orient, et en revenant justement à Paris, pas loin d'ici, qui serait...
Pardon? À Lyon, pas loin d'ici.
Oui, pas loin d'ici, de la Tête d'Or, ça veut dire le musée Guimet. Hein, parce que, évidemment, comme vous le savez, les Lyonnais, l'autre mer synthétique a été inventée, ou découverte en tout cas, ça veut dire l'autre mer telle qu'il l'a utilisé Yves Klein dans les années 60, a été inventée à Lyon. Jean-Baptiste Guimet, et qui à l'époque s'appelait pas le bleu d'Yves Klein, mais le bleu Guimet, qui est très intéressant parce que on avait du coup découvert, c'était dans les années 1826, quand il avait trouvé un moyen, justement, après un concours, comme c'était le cas pour Henry William Perkin, qui avait trouvé, donc, découvert la teinture, le mauveïne. C'était aussi un concours qui était lancé en France pour trouver un moyen, puisque c'était très, très coûteux à l'époque en Europe, la production justement de pigments d'outre-mer, parce que ça venait du Moyen-Orient, la pierre, lapis lazuli, comme on le sait, qui coûtait très cher. Et donc, du coup, on cherchait un moyen pour synthétiser ou pour le produire de façon synthétique. Et on a réussi. Et ça a été une extrême, comment dire, enfin, toute une industrie de la famille Guimet qui a fait fortune avec cette couleur outre-mer, qui n'est rien d'autre. Enfin, le bleu d'Yves Klein n'est pas une couleur qu'il a inventée. Toute cette mythe comme quoi il avait déposé un brevet sur sa couleur dans les années 60 est un pur mythe, puisque c'était breveté déjà dans les années au 19e siècle, 100 ans avant, par Jean-Baptiste Guimet. Et on connaît évidemment toute l'histoire de son fils, Émile Guimet, et son intérêt justement pour l'Orient, pour l'Afrique du Nord, et cette grande collection évidemment qu'il avait ramassée à la fin du 19e siècle. Et que donc, du coup, pendant que vous allez plus loin dans les détails, j'étais curieux de voir comment même ne risque que de lire ces couleurs qui dégolinent sur ces feuilles de papier carbone, avec évidemment cette connotation et cette référence Yves Klein, pourrait nous amener à une lecture extrêmement passionnante. À la fois, je ne vais pas aller encore plus loin, mais justement, par rapport à son situer la Palestine là-dedans, qui était l'origine de ce projet, mais une relation ou une histoire très complexe entre l'Occident et l'Orient, qui est en quelque sorte inscrit dans la couleur même de ce papier carbone. Pardon.
Donc, pour en revenir à Yves Klein, je n'ai pas inventé non plus la couleur bleue du papier carbone. Je l'ai utilisé tel quel.
Est-ce que tu avais, évidemment, tu avais pensé à Klein, c'était, ou pas nécessairement?
Dès qu'on touche le bleu, on touche à Klein. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Moi, j'étais quelque part, quand je pense à la couleur bleue, je pense plus au bleu de Casablanca ou au bleu de Tunis, enfin par rapport aux références que j'ai de couleurs. Mais d'un autre côté, plus que d'abord la couleur, il y avait vraiment, comme tu dis, cet effet ce phénomène un peu de Madeleine de Proust. C'est-à-dire, moi j'aime bien traîner dans les magasins, les papeteries en particulier. Je crois que tu as la même passion des papeteries. Donc j'ai suis retombée une fois un peu par hasard sur des feuilles de papier carbone, et puis je me suis dit waouh, c'est super beau. Et puis tout à coup, il y a tout ce souvenir qui m'est revenu de mon enfance à l'école à Aix-les-Bains, où la maîtresse nous donnait ses exercices et ses leçons sur du papier polycopié. Donc elle avait sa petite machine à faire des polycopiés qu'elle mettait sur le bureau. Il y avait toujours à l'appeler un des élèves pour mettre l'alcool et pour tourner la manivelle. Et on avait nos exercices. Et effectivement, il y a cette odeur très forte comme ça d'alcool mélangé au pigment qui m'est un peu revenu comme ça. Donc quand je me suis retrouvée avec ce morceau de papier-là, je l'ai d'abord accroché au mur. C'était d'ailleurs après, un petit peu après mon post-diplôme que j'ai effectué à Lyon, à l'école d'art de Lyon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que c'est la matière est belle, le format est indiscutable, c'est A4, c'est simple, c'est compréhensible, c'est très vite compréhensible, c'est pour un usage comme ça de bureau. Et en même temps, je ne savais pas quoi faire avec. Donc pour revenir au post-diplôme que j'ai fait à Lyon, c'était l'époque où avait éclaté la deuxième intifada, donc où le conflit israélo-palestinien avait repris de plus belle. Et je me suis un peu trouvée face un peu à mon ignorance par rapport au sujet, parce que je voyais tout le monde s'enflammer un peu là-dessus, et puis moi, je n'y connaissais rien. Et donc, je m'étais mise à, déjà, d'une part, à être bloquée. Je pense que c'est important de dire, j'étais vraiment très, très bloquée dans ma pratique de jeune artiste, parce que je me demandais tout simplement comment je pouvais, à ce moment-là, avoir une pratique artistique, c'est-à-dire réfléchir à des formes et des objets qui touchent à l'art, alors que de l'autre côté du monde, on est en face d'une impasse politique. Et moi, ça me semblait aberrant. Enfin, ça semble peut-être un peu exagéré maintenant, mais c'était vraiment un gros blocage. Je me demandais comment je pouvais avoir cette espèce de luxe comme ça, de réfléchir à l'art, alors que la politique même était dans une impasse. C'est-à-dire les discussions, les débats, les tables rondes faisaient que ce conflit-là ne se résolvait pas. Ce qui m'inquiétait, moi, c'était la question de la résolution de ce conflit qui a ensuite débouché sur d'autres travaux que j'ai faits, avec notamment un travail sur les textes de résolution de l'ONU, que j'ai aussi abstrait de cette forme-là, parce que je travaille jamais directement avec les matériaux mêmes, enfin avec les sources, enfin avec les textes quelque part. Et là, donc j'étais en train de lire ces livres, en même temps j'avais ce papier carbone qui était accroché au mur, et je me disais qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et je tombe un jour, donc par hasard, sur cette citation, donc sur ce petit passage de livre. Je n'arrive même pas à retrouver quel était le livre. Je pense que c'est celui de Xavier Baron, qui s'appelle « Les Palestiniens », et qui, à un moment, parle, Yasser Arafat parle de cette époque, à la fin des années 60, où à chaque fois qu'il y avait un stencil, du papier carbone et des stencils qui étaient utilisés, il y avait une révolution qui éclatait. Et il ne parlait pas que de la Palestine, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il parlait aussi de l'Europe, de la fin des années 60. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai présenté ces pièces, il y a des anciens 68ards qui sont venus me voir et me dire « Ah, mais moi, ça me rappelle quand j'avais 20 ans dans la cave de mon copain, on faisait notre acte comme ça ». Donc moi, c'est aussi cette source-là qui m'intéressait. Donc j'ai commencé à partir de là à collectionner des tracts, des polycopiés, de toutes sortes de choses qui avaient été faites avec ce matériel-là, le papier carbone et l'alcool. Et je me suis retrouvée en face d'une quantité comme ça assez importante d'images, de textes, de slogans. Et en me demandant, mais qu'est-ce que je peux, moi, maintenant, remettre en jeu? Est-ce que je fais juste une citation de ces tracts mêmes? Ou est-ce que j'essaye de trouver de nouveaux slogans? Ou de nouvelles images? Donc je me suis rapidement trouvée face à un trop-plein d'informations, enfin un trop-plein d'historicité quelque part, qui a fait que cette impasse-là a conduit finalement à ce que je fasse une installation. Enfin, ce qui est issu de là, c'est une installation où il n'y a pas de message à part le geste même, à part les matériaux mêmes, c'est-à-dire l'alcool à brûler, le papier carbone, et sauf qu'il n'y a pas l'application de la reproductibilité. Il n'y a pas le message qui est écrit, et tout ce qu'on y voit, c'est un mur qui dégouline comme ça, comme un mur qui pleure. Donc c'est une pièce qui est d'une part assez violente dans le geste, parce qu'il y a, quand on s'approche de près, on voit vraiment les giclures, donc on ressent, et ça c'est assez important dans la plupart de mon travail, qui sont souvent des objets comme ça, assez simples, assez qui n'ont pas beaucoup de spectacularité quelque part. C'est vraiment des bouts de trucs par terre ou des bouts de trucs au mur. Et par contre, ce que j'essaie toujours de faire, c'est en sorte que le geste qui a été fait dessus se reconnaisse ou se puisse se lire par la personne qui le voit. Donc là, si on approche de cette pièce des murs bleus, on peut voir les giclures qu'il y a d'alcool, on peut vraiment les voir au mur, et le geste aussi qui est d'aller du haut vers le bas et de dégouliner vers le sol. Donc c'est vrai que la référence à Marcel Broutars fait partie des choses qui me sont très chères quelque part depuis.
Mais il y a un autre, parce que en lisant justement ce très bon entretien que tu as fait avec Bernard Marcadet, et peut-être c'est mon côté un peu anglo-saxon, mais j'étais frappé qu'il n'y avait pas une autre référence dans la discussion. Évidemment, vous n'avez pas abordé tous les aspects de votre pratique et votre travail, mais ça me fascine toujours cette. Je t'en avais parlé tout à l'heure, de l'importance justement aussi de ces gestes et cette référence au travail et à l'œuvre de Richard Serra, l'artiste américain. Et que je trouve intéressant parce que c'est cette date de la même année que le film de Marcel Broutas. Et on avait discuté de ça, cette pièce qui s'appelle Splashing, où Richard Serra, tôt dans sa carrière d'artiste, lance le plomb en fusion, ça fait penser d'ailleurs à Gustav Metzger, protégé justement, et qui lance du plomb sur un mur, à ras le sol ou à même le sol, qui évidemment, semble-t-il, est la référence à l'origine d'une œuvre comme Aratum, où tu lances les verres à terre, bon marché, comme tu le dis, contre le mur. Et que je trouvais que justement dans l'entretien, cette question de violence que Bernard Marcadet soulève, où il appelle ça aussi une agressivité qui est à l'origine de certains des gestes, et que ce qui me semblait aussi important à rappeler, c'est que dans ces gestes de Richard Serra, il y a aussi le langage, puisque si ça s'appelle splashing, que tu reprends d'ailleurs dans tes pièces comme en fait, cette substantif verbal, cette forme substantive verbale en anglais, on retrouve justement dans stoning, par exemple, qui me semblait aussi dans une pièce. Stoning, qui veut dire littéralement to stone, de lancer les pierres, évidemment, mais aussi la lapidation, n'est-ce pas, en anglais. On y pense tout de suite quand on entend le mot stoning. Et ça vient de cette célèbre texte que Richard Serra, pardon, quand on parle de splashing, qu'il avait formulé ou dressé cette liste en 67, je crois, qui s'appelle Verb List, où il avait réduit la sculpture ou le geste sculptural à une série de verbes. Ça veut dire tailler, reboter, déplacer, etc. Et que je pensais que c'était très intéressant que là où il y avait aussi l'écriture dans le film de Broutas, Projet Point Texte, Le Pluie, cette impossibilité de l'écriture chez Broutas, il y a aussi dans cette autre référence ou influence, aussi derrière l'écriture. Parce que le texte, le verb list est très intéressant, la manière dont c'est écrit en lettres cursives. Et il me semble aussi que c'est aussi une manière, juste pour le dire, de rappeler, chose qui est assez intéressante dans ta pratique, les origines de tes formes. Enfin, je pense que tu n'as pas tort de citer du côté des Américains de cette époque-là, il y a aussi Carl André avec un projet ou une œuvre qui s'appelle Spill, où il a versé, ça s'appelle Scatterpiece, qui est aussi très proche de stoning. Et il y a, c'est importante, je crois, pour toi, ta manière de souligner ou de mettre en avant tes références historiques Et les références, effectivement, de tes formes. Est-ce que tu peux dire un mot de cette, par exemple, de reprendre de ce geste, qui est évidemment un geste, en plus, très masculin, n'est-ce pas, de Richard Serra, ou viril, disons, et de le reprendre dans tes œuvres à multiples reprises, en commençant justement avec Erratum, je crois qu'en 2004, avec ce geste casser les vérités.
Ben moi, ce qui m'avait assez fasciné quand j'ai découvert petit à petit ces œuvres-là, donc de Carl André, de Richard Serra, parce qu'après, je pense que c'est assez différent avec Brutars, mais c'est qu'il prenait très sérieusement la question de que faire, comment faire, c'est-à-dire si l'art, c'est faire, c'est quel est... Quel est donc le verbe que l'on peut appliquer à des matériaux après, c'est la question que je pense se pose tous les jeunes gens qui commencent à pratiquer l'art, c'est-à-dire on se retrouve un peu après toute une grande histoire comme ça qui a été déjà pas mal entamée et à réfléchir à... Qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux produire, qu'est-ce que je peux amener d'autre quand il y a déjà tellement d'objets, quand il y a déjà tellement d'images, quand il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. Et surtout, comment est-ce que moi, je peux trouver la façon la plus juste d'intervenir. Et moi, j'ai commencé l'art par la peinture, en pensant au début que c'était vraiment ça. C'était vraiment là, donc je faisais des portraits très, très expressionnistes, j'étais passionnée par l'expressionnisme allemand et maintenant plus par la poésie allemande d'ailleurs, mais par l'expressionnisme allemand. Et ensuite je suis arrivée à l'école d'art de Grenoble où j'ai eu un énorme choc qui était le choc de la découverte de l'art contemporain. Donc avec une première visite au MAMCO où j'ai découvert, je partais vraiment de loin, quoi. C'est-à-dire je savais pas que des néons pouvaient être de l'art, je ne savais pas que de la photographie pouvait être de l'art, ni même des installations. Donc j'étais assez fascinée par les choses que je voyais, et puis dans une incompréhension totale. Et je me disais mais c'est dans un musée, donc ça doit bien, ça doit bien signifier quelque chose, puisque c'est dans un musée. Et donc j'ai essayé de trouver la façon la plus simple et la plus juste pour moi d'intervenir. Comme je n'ai pas de grande culture, de par mon milieu très populaire d'immigrés, je n'ai pas de pratique, on va dire, d'excellence au niveau de... Je dessine très bien, hein, mais...
C'est mais bon
oui, le faire, mais également les gestes. C'est-à-dire, pour moi, ça apporte une dimension supplémentaire à la lecture d'une œuvre. C'est-à-dire, il y a un objet, mais il y a aussi l'action qui a été faite dessus. Et pour moi, ça fait partie inhérente de l'œuvre. Et donc, ça m'avait donc fascinée quand j'ai découvert ces œuvres-là. Je me suis dit, mais ils ont tout compris, c'est tellement simple. Le plomb, en fusion, on le jette sur le mur et c'est une pièce. Et ce qui était très touchant, c'est que Serra a fait ça dans l'atelier de Jasper Jones. Donc, je ne savais pas si même à l'époque, il prenait ça très sérieusement, parce que c'était fait dans l'atelier. J'ai essayé de retrouver si cette œuvre a été réexposée ensuite. Elle est dans beaucoup de livres d'histoire, mais je ne sais pas si elle a été prise tant au sérieux que ça à cette époque-là.
C'était exposé dans mon souvenir aussi, dans le sous-sol. Peut-être il l'avait fait dans le sous-sol de la galerie Léo Castelli à l'époque, n'est-ce pas?
Oui.
Ça a été... et puis, par la suite, comme ça a pris la forme, évidemment, de...
Il a remontré l'objet tel quel.
Oui, à plusieurs reprises. Après, je ne me souviens pas du titre, parce que ce n'est pas le même titre. Mais en fait, il y a une série
et après, il a
de pièces qui ont été présentées, qui étaient en fait les moules ou les moulures de cette forme de coin, n'est-ce pas ?
Et après, ça a dérivé plus sur ce qu'on connaît plus de son travail. Mais la première photo, c'était vraiment, il y en avait de partout, quoi. C'était sur les murs, vraiment sur les murs et le sol. Et je trouvais ça assez fascinant parce que c'était un geste simple. Mais tout comme Carl André, on est dans des matériaux qui sont, on va dire, simples. Il travaille avec du plomb. Il a fait beaucoup de pièces au plomb. Donc on était sur des pièces en bois, on va dire des matériaux qui étaient simples, on
les
va
briques,
dire
par exemple,
voilà, et les pris. Voilà, et les briques, donc on était sur des matériaux comme ça très simples, et c'est pour ça que j'ai gardé quelque part ces gestes là tout en utilisant des matériaux qui sont plus que d'être simples, c'est de trouver des matériels qui sont culturellement simples, culturellement identifiables. Dans la pièce Erratum avec les verres cassés, on peut reconnaître assez facilement que c'est des verres athées qui ont été cassés, donc on reconnaît le matériel. C'est un matériel que j'ai défini comme un matériel culturel minimal, c'est-à-dire le minimum de la culture orientale, c'est verres athées, tapis, pouf, c'est quoi, couscous, safran, enfin vraiment. Et ça, c'est peut-être très très cliché comme ça, mais c'est des clichés que je respecte énormément parce que c'est ces clichés-là qui sont les seules lectures que j'avais par rapport à ma culture d'origine. Parce que je viens d'une famille d'immigrés, et les seuls rapports que j'avais avec les origines de ma famille étaient un peu ces résidus un peu bon marché qu'on avait dans les appartements ou que je trouvais dans les appartements de familles voisines. Et donc ça avait rien de la grande culture arabe. Donc il y a
Je pense que ça c'était intéressant aussi parce que j'étais en train de réfléchir et je n'arrête pas de revenir sur une remarque qui était faite par l'artiste sud-africain il y a quelques années. Je l'avais entendu justement dans une conférence, parler de son admiration pour... Pardon, exactement, c'est William Kentridge, l'artiste William Kentridge, qui, à un moment donné, avait avoué son admiration et son intérêt pour le travail de l'artiste américain de la même génération, Bruce Nauman, et surtout les premiers films de Bruce Nauman. Et il avait fait le constat, à un moment donné, qu'il ne pourrait pas prétendent s'offrir cette même liberté qu'il y avait dans l'art américain à l'époque, étant donné ses origines sud-africaines et dans le contexte contemporain d'aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant, justement, la manière dont tu as pris... Bah, évidemment, je pense qu'il a d'une certaine manière raison. Il y avait une énorme liberté, évidemment, entre les années 50 jusqu'à peut-être les années 70 aux États-Unis, en Europe et dans le monde de l'art contemporain en général. Mais on voit justement, par exemple, le film de Marcel Brutas ou même son œuvre, il y a évidemment une quête ou une recherche de liberté, mais quelque chose qui, malgré tout, n'a pas cette même... comment dire, c'est pas naïveté, mais cette même coupure de l'histoire, peut-être, enfin, je dis les pensifs évidemment, mais de l'art américain à l'époque. Mais c'est intéressant comment tu appropries ces formes aussi dans un contexte, il me semble, puisque c'est quelque chose qui sans doute est extrêmement problématique aujourd'hui, où la question justement de l'identité, et l'identité, quelque chose qu'on peut appeler l'identité nationale, ou une spécificité culturelle, pour ne pas être dans un discours trop problématique. C'est extrêmement difficile, justement, d'imaginer aujourd'hui une spécificité, par exemple, de quelque chose qui serait un art français contemporain. Et que ça semble être extrêmement dur à concevoir. Comment est-ce qu'on peut être à la fois dans quelque chose qui garderait une certaine spécificité et qui ne serait pas dans un ersatz d'art contemporain globalisé ou global, ou, mondiale. C'est sans doute une problématique qui est extrêmement difficile même à aborder aujourd'hui, et qui est même, je dirais, peut-être une des raisons pour lesquelles il y a une certaine fascination. Enfin, je dis, peut-être c'est pas le choix de mots n'est pas si, mais des artistes venant des origines, pardon, des horizons en dehors de l'Europe ou de l'Occident. Puisqu'en même temps, dans ce geste de reprendre cette forme aussi libre de Richard Serra, qui est de savoir si c'est véritablement libre, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on l'interprète, enfin, mais et de reprendre un objet de la culture avec laquelle tu es identifié, il y a quand même aussi un geste agressif en quelque sorte envers cette origine, n'est-ce pas? Le fait de casser ce verre n'est pas aussi si innocent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le point de débat qu'on avait eu avec Bernard Marcadet, quand il a commencé à amener la question de la violence, était que je ne comprenais pas. Je ne comprends pas pourquoi on parle de violence. Je suis quelqu'un d'extrêmement calme. Ce que j'essayais de... Je pense qu'il n'y a pas 36 000 manières non plus de casser un verre, dans un sens où il n'y a pas 36 000 manières de faire couler quelque chose, de jeter quelque chose, d'éparpiller quelque chose ou d'évider quelque chose. Je pense qu'il y a... Quand on doit couper, on coupe. Quand on doit jeter, on jette. Et puis, j'y mets pas cette question de la violence-là. Et peut-être... lisible, mais elle est pas, c'est pas la volonté. Comment expliquer ça ? Parce qu'il faut, que je règle cette question-là quelque part. Mais en même temps, quand tu parlais de Brutars, ce qui est intéressant, on peut parler aussi de Bastianader également, c'est qu'il y a, quand il fait ce film, donc où il écrit avec une plume. Parce qu'il écrit avec une plume à l'ancienne, enfin une plume, pas un stylo plume, mais une plume, qui, il plonge le stylo dans un petit pot d'encre, il écrit et dessus il y a la pluie. On se dit mais quel désespoir, etc. C'est absolument magnifique, mais de temps en temps dans le plan du film on voit que c'est complètement artificiel, que c'est une mise en scène... très simple, hein, c'est-à-dire il y a je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il y a des arrosoirs en haut, et puis il y a des moments où on voit pas la pluie dans l'image, sur les côtés, parce que c'est que à cet endroit-là. Donc, c'est très dessin animé comme ça. Donc il met en scène cette absurdité du geste et ce geste-là. Tout comme Bastianader, quand il y a ce film qui est peut-être le plus connu, qui est I'm too sad to tell you, qui veut dire je suis trop triste pour te dire, je sais pas si c'est bien traduit, mais oui, je pense que c'est. C'est que il pleure devant la caméra qui le filme, mais on sait très bien, il l'a fait plusieurs fois. D'ailleurs, la première fois, c'était une photographie, et ensuite, il a tourné une fois, puis il a retourné une deuxième fois. Donc, le gars qui a fait ça, enfin, le gars, l'artiste qui a fait ça, pardon, je résume, qui a fait ça devant sa caméra, il a joué le truc, donc on joue la chose. Et donc, c'est peut-être par rapport à cette notion de sérieux, tu vois, dans un sens, est-ce que c'est si sérieux que ça, ou est-ce que... Ou est-ce que, quelque part, on est bien conscient que l'art, c'est un peu de la tricherie, que c'est de la mise en scène, quelque part, d'objets, ou de matériaux, ou de gestes, même quand on travaille avec des choses beaucoup plus, on va dire, profondes, comme le sang, la blessure, ou cette idée de performance-là, il y a quand même une histoire de jeu. Il y a quand même une histoire de performance. Donc, il y a un temps donné, un lieu donné et un public donné. Donc, c'est un petit peu, c'est un tout petit peu faux. Donc, la violence ne peut pas être jouée, dans un sens. Je ne peux pas jouer.
Oui, mais ça, tu le dis très bien dans l'entretien, à nouveau. Cette choix de ne pas, contrairement à, justement, Richard Serra, ou peut-être Bastianader, d'ailleurs, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de représentation. Le geste n'est pas filmé, par exemple. Et tu disais très justement tout à l'heure que ça rendrait effectivement le geste trop spectaculaire, évidemment.
Oui, je suis vraiment anti-spectaculaire. Donc, c'est bien sûr que c'est hyper tentant. Hein. Je veux dire, il y a des, il y a, ça a été enregistré en termes de son, ça a été filmé. Et donc, à chaque fois, j'ai pris en, j'ai fait attention à ce que ça soit pas utilisé. Donc, les fois, une fois, ça m'a échappé. Il y a une photo qui a, de moi en train de casser les verres qui a été prise dans la presse et ça m'a fortement embarrassée. Et vraiment fortement embarrassée parce que j'ai pas envie de c'est pas garder du mystère, mais c'est je veux vraiment qu'il y ait cette lecture où on voit un objet, on s'approche et on se dit mais comment est-ce qu'il est arrivé là de cette manière-là, dans cette forme-là. J'ai pas envie qu'on me voit faire, sinon j'aurais fait voilà une performance à une heure donnée et je me serais mis en scène comme ça. Mais c'est pas ce qui m'intéressait du tout. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question, on va dire, de résidus, la question de reste, et qu'à partir de ces bribes, de ces petits chiffons, ou ces bribes-là, on arrive à retracer une histoire de l'objet. Et après, si on veut regarder un peu plus loin, c'est se dire, ah mais tiens, cet objet vient de cette histoire-là, de ce contexte-là. Et on peut arriver à retracer comme ça une histoire. Donc là, c'est vrai que je suis présente et qu'on peut parler un peu des choses un peu plus on va dire profondément. Mais sinon, j'ai vraiment très à cœur que les expositions que j'organise ou que j'agence soient qui est très peu d'indices qui soient donnés à voir et que le public fasse sa part de travail à chercher ou pas, ou à prendre ou pas, ou même si c'est pris tel quel, c'est-à-dire comme souvent, c'est souvent des expositions très sèches, hein, enfin très arides, quoi, quelque part, et que c'est, s'il peut y avoir juste ça qui est donné, c'est intéressant. Après, si on veut, voilà, on peut aller chercher les gestes, on peut aller chercher l'origine des objets ou l'explication de chaque chose, on peut aller taper, je sais pas moi, Ronda, campement de soldats marocains, on peut aller taper lithographie et puis avoir comme ça une histoire des matériaux.
Est-ce que tu peux expliquer un peu plus de à savoir comment, puisque c'est très présent, c'est justement pour revenir à ce que j'ai vu sur ce qui m'intéressait sur la question justement de l'écriture et son effacement ou son retrait, mais c'est pas simplement évidemment l'écriture. Il y a par exemple ces blocs de pierres lithographiques dans l'exposition en monochrome noir, le fait par exemple, je suis en train de regarder justement en face de moi les tapis où tu vides le motif à l'intérieur, ça veut dire que pour toi ça joue autant avec ce qui est enlevé ou ce qui est en retrait que ce qui est donné à voir. Et c'est une stratégie qui est assez spécifique ou propre à ta pratique. Comment tu es venu à cette principe ou cette stratégie, si on peut l'appeler, et quel était l'enjeu pour toi? Est l'enjeu?
L'enjeu, c'est la stratégie du hors-champ, si on peut parler de stratégie. La question de ce qui est donné à voir et ce qui a été enlevé, donc toujours en laissant une trace de ce qui a été enlevé. Dans des pièces, par exemple, comme la pièce Fantasia avec les porte-drapeaux qui n'ont pas de drapeau, on sait que c'est des porte-drapeaux, et au bout d'un moment, on se dit, mais au fait, il n'y a pas de drapeau. Donc les drapeaux sont là sans être là. Et c'est toujours cette question du hors-champ, c'est-à-dire que l'objet, même s'il est absent, il est toujours ici. Dans la pièce, dans l'exposition qui s'appelle Skin, qui est les chaussures, enfin les baskets d'adolescents là qui sont contre un mur. On voit les chaussures, mais il n'y a pas les adolescents. Mais c'est ce qui est absent. Donc finalement là, c'est un peu comme la question des souliers de Van Gogh, c'est la l'objet qui parle de ce qui n'est pas là, la paire de Vans ou la paire de Converse qui parle de l'adolescent. Et c'est oui, c'est un peu ces choses-là. C'est-à-dire il y a un indice de, je me suis un peu perdue là. Il y a un indice de ce qui est pas présent, et en même temps il est exactement là. Donc c'est pas une absence totale. Hein, la notion de vide ou la notion, on va dire le zéro absolu n'existe pas. Donc ça c'est peut-être le seul truc que j'ai de très lié à mon background arabe, parce que la notion de vide et de zéro.
Ah oui.
C'est le seul truc, mais j'ai découvert ça un petit peu. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant que je me...
Et tu peux l'expliquer?
J'étais un peu obsédée. Non, c'est juste c'est des chercheurs arabes qui ont inventé le zéro.
Ah oui, pardon, exactement. Oui, tout à fait.
Donc, parce qu'avant, avant 1, on s'y intéressait pas, et puis là, tout à coup, il y a 0. Oui. Donc voilà, c'est le seul truc que je trouvais que j'étais un peu obsédée autour de ça, puis après, je sais plus qui m'a dit, mais au fait, mais bien sûr. Et puis, donc voilà, c'était assez simple. Mais souvent, ça marche aussi comme de la façon dont je travaille, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être ultra référencé et tout, mais c'est vraiment ça part vraiment d'une passion pour des petites choses, et puis j'adore rebondir sur plein de, dans mes recherches, de rebondir sur plein de choses comme ça.
Je vois qu'on arrive à 19h30, c'était l'idée de...
D'ouvrir de...
Si vous voulez bien, on va peut-être effectivement passer le micro dans la salle s'il y a des questions.
Parlez-nous.
Monsieur, par contre, si vous voulez bien, parlez dans le micro, comme ça c'est enregistré, tout le monde en profitera. Merci.
Vous nous avez parlé énormément d'un certain nombre d'expositions, parlez-nous de celle-ci. Alors, vous n'avez fait allusion qu'aux chaussures.
Alors, cette exposition-là, c'est un... Comment la résumer en quelques mots? J'ai voulu m'intéresser justement à cette notion de temporalité. On va dire, présente dans beaucoup, si ce n'est pas la majorité de mes pièces. Et j'ai essayé de produire comme ça un parcours avec un corpus d'œuvres qui permettent de parler de cette temporalité-là, tout en essayant de trouver des liens avec des œuvres qui n'ont pas été forcément créées au même moment ou fabriquées au même moment. Donc, je suis partie au départ sur la pièce Ibiza. C'est un peu comme le parcours sur la pièce Ibiza, les tondos. Ensuite, j'ai eu envie de montrer les pierres lithographiques qui sont présentes sur la salle du fond. Et ensuite, par rapport à ça, je me disais, par rapport aux pierres d'Ibiza, j'ai rebondi sur les photographies du cimetière marocain où on voit des petits escargots et des sacs en plastique qui m'ont fait rebondir sur le rapatriement des cerfs-volants en forme d'oiseau qui étaient en Allemagne et que j'ai rapatrié pour cette exposition-là. Et donc ça s'est construit un petit peu comme ça, c'est-à-dire une forme d'assemblage comme ça de petits temps et sur des pièces qui n'étaient pas forcément conçues ensemble au départ, donc pour créer une autre un autre parcours et d'autres liens et donc voilà. Après je peux ça serait hyper long, mais je peux rentrer dans le détail de tous les petits liens entre les pièces que je fais, mais dans l'autre sens, et je pense que c'est aussi intéressant de voir, d'essayer de voir, de se faire son propre cheminement par rapport à ça.
Mais le fait, par exemple, qu'on entre dans l'exposition, les premières pièces, et notamment ce reste de pierre, des Ibiza, avec les tableaux, les tondos, sur le mur, est-ce qu'il y avait un choix dans le parcours? Quel était l'enjeu de, par exemple, présenter ces deux pièces dans la première salle?
Alors l'ensemble des pierres avec les cartes à jouer est donné à voir un peu comme un paysage de départ, c'est-à-dire c'est-à-dire plus que de présenter ça comme un ensemble de sculptures, c'est de présenter ça vraiment comme un terrain sur lequel on marche et on traverse comme ça ce grand rectangle qui est la première salle. Et les tambours, donc ces tondeaux de peinture d'encre, donnés à voir comme ça d'un seul regard comme ça qui parcourt les murs, fonctionnaient et également avec cette idée de paysage là. Donc là, après la façon dont c'est agencé, c'est aussi une question de sonorité par rapport en même temps. Aux éclats de peinture, enfin aux éclats d'encre sur les tondeaux qui produisent un certain son. C'est pour ça que j'avais appelé cette série d'œuvres tambour. Et de l'autre côté, cette chute, j'ai peur de rentrer trop dans le détail. Après, je peux. Mais c'est de cette manière-là dont j'ai construit un peu ça, c'est-à-dire ce qui était avant au sol, c'est-à-dire alors qu'à l'origine un tondeau c'est au plafond, ce qui était au sol quand je les ai fabriqués, c'est-à-dire les toiles rondes, je les ai érigées au mur. Ensuite les pierres, je les ai fait tomber, donc on sent quand même le poids du matériau sur les cartes à jouer qui sont pas faites pour tenir, qui sont pas faites pour être des socles. Et j'ai conçu un petit peu de cette manière-là. Puis après, après c'est de salle en salle, ça s'est construit de cette manière-là.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
J'ai remarqué beaucoup de vos œuvres utilisent ou font référence à la gravité, la force de gravité. Je pense aux pierres qui semblent avoir écrasé les jeux de cartes, à l'encre aussi que vous utilisez, que vous faites couler, à l'alcool aussi sur le mur qu'on a vu tout à l'heure. Et ça me fait un peu penser à cette œuvre où vous présentez les chaussures, Skin, qui pour moi représente vraiment comme une sorte de lien, comme ça, qu'on utilise quotidiennement, les chaussures, qui sont notre manière d'avoir les pieds sur terre et en même temps de pouvoir se déplacer, d'être au monde, d'être là. Et je me demandais si cette référence et cette utilisation de la force de gravité s'opposait à une absence, à des fantômes, puisque c'est le titre aussi de certaines de vos œuvres. Je sais qu'il y a des photos de cimetières également. Et je dirais que ça me pose question par rapport à cette présence, un peu cette force de gravité qui serait pour moi une façon d'être au monde, d'être présent, d'être vivant, et puis l'absence qu'on ressent aussi fortement dans votre exposition.
Alors la question de la gravité, je la réfléchis pas vraiment telle quelle, dans le sens où quand ça tombe, et puis quand on enlève des chaussures, c'est au sol, où j'aurais pu les accrocher au mur, mais on aurait été sur encore autre chose. Donc le geste que j'applique là-dessus, c'est des gestes pas, qui sont pas hyper, qui, où je réfléchis pas très très loin, en fait, en gros, pour ça. C'est un processus, voilà, que j'essaye de faire, je m'efforce de faire de la manière la plus simple possible. J'essaye vraiment c'est vrai que là, souvent quand je pars sur des nouveaux projets, j'ai vraiment toutes sortes d'idées farfelues, de trucs hyper compliqués. D'ailleurs au début, les verres cassés, ça devait être une vidéo, et puis ça s'est fini en installation. Et c'est souvent aussi également des hasards qui sont dus au parcours de recherche de chaque œuvre. Par exemple, parce qu'on en a parlé un peu entre nous avant. Par exemple, la pièce des pierres d'Ibiza, enfin l'installation Ibiza avec les pierres et ses cartes à jouer, au départ, c'était censé être un socle parce que les plateformes, au départ, étaient des plateformes parallépipédiques, sont des grands rectangles de pierres scellées avec du béton, et sur le bord, il y avait dû à une espèce de goudron noir peint sur le bord, tel qu'on me l'avait décrit à l'époque. Et quand j'ai envoyé quelqu'un pour prendre les photos, les dimensions, pour pouvoir reproduire les mêmes socles sur lesquels j'aurais mis les cartes à jouer, c'était mon projet du départ, la personne s'est retrouvée face à des amas de pierres détruites et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je fais ? Parce que je laisse tomber complètement ce projet. Ou finalement, ce hasard de cette destruction des plateformes, et donc cet effacement également de l'histoire, parce que c'était aussi un moment où on essayait, on va dire, de régler un peu ces questions historiques-là en Espagne. Ou est-ce que je me sers de ça pour rapatrier les pierres telles quelles ? Et les cartes, j'ai essayé, elles ne tiennent pas dessus. Hein. Ça donnait un truc un peu genre un peu un gâteau avec du sucre glace dessus, donc ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc j'ai tout simplement inversé. Et ça, c'était au mois de juillet. Et un mois après, j'avais prévu de partir au Maroc pour aller photographier ce cimetière à Medina, qui est un petit village à côté de Casablanca. J'avais, parce que le souvenir que j'avais de ce cimetière à Medina était que la dernière fois où j'y avais, c'est le cimetière familial. La dernière fois où j'y avais été, c'est-à-dire il y a la première fois où j'ai été, c'est-à-dire il y a 16 ans, je suis pas allée souvent, très très souvent là-bas. Il y a 16 ans, c'est qu'à un moment, je marchais avec mon oncle. On devait aller, il me dit, je vais te montrer la tombe de ton grand-père. Et puis donc on a marché hyper loin. Et j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte qu'on était en train de marcher sur un cimetière parce que le sable avait enseveli les pierres, les stèles, qui étaient effacées, parce que c'était peint avec de la peinture, mais ça s'est tout effacé. Donc on voyait juste des pierres par-ci, par-là. Et donc j'avais idée donc j'avais filmé ça et pris quelques photos comme ça pour me documenter. Et de l'autre côté, il y avait ces photos d'escargots parce que j'avais ce souvenir très fort des escargots. Donc j'ai ces deux trucs-là à faire. Donc c'est vrai que j'avais ce voyage prévu-là un mois après. Et quand j'ai installé, on va dire, la première fois les pierres avec les cartes à jouer... Donc j'ai installé comme ça, et puis à un moment, je me suis retrouvée à prendre du recul, à regarder l'installation dans son ensemble, et je me suis dit, ah mais au fait, c'est fait un peu cimetière, mon truc. Et je n'avais pas fait le lien avant de le faire. Donc je suis très très naïve quand je travaille, souvent. Mais heureusement, pour moi, je garde ça, parce que ça me permet d'avoir des bonnes surprises, et puis de m'amuser un peu de
Mais l'association entre la pierre et les cartes à jouer, comment ça c'est venu ?
Alors c'est venu, comment c'est venu ? C'était quand on préparait l'exposition au MACBA à Barcelone, le directeur m'avait parlé de ces plateformes-là, parce qu'à un moment on discutait d'immigration, on discutait de zones comme ça, d'immigration, puis on parlait de ça, et puis tout à coup il m'a dit « Ah mais ça me rappelle cet endroit de... » Parce qu'il a grandi à Ibiza, il me dit, ça me rappelle cet endroit qui est dans la campagne à côté d'Ibiza, qui est là où il a passé son enfance. Il s'est rappelé de ces plateformes rectangulaires sur lesquelles ils allaient jouer. Et il me dit, ça servait de plateforme pour monter des tentes pour des soldats marocains qui avaient combattu sous Franco dans les années 30. Donc je me suis rappelé de ça, puis... à un moment, il s'agissait dans l'exposition de faire des socles, parce que je voulais travailler avec ces cartes à jouer, qui était un jeu qui s'appelle Aronda. C'est un jeu que j'ai vu dans mon enfance quand j'étais retournée pour la première fois au Maroc. Je jouais avec mes petits cousins et mes petites cousines. Sauf que ce jeu de cartes était complètement bizarre pour moi, parce que c'était pas du tout pique, carreau, trèfle et cœur. C'était des formes que je connaissais pas. Les règles n'étaient pas les mêmes, les images n'étaient pas les mêmes. Donc c'était un objet comme ça assez étrange. Et j'ai toujours cru toute ma vie que c'était un jeu marocain. J'ai découvert assez tardivement que c'était un jeu espagnol. Donc j'avais envie de travailler sur ce jeu de cartes. Et donc quand il me parlait de plateforme, d'attente, de station comme ça, d'attente, j'ai tout de suite pensé aux cartes d'attente. Enfin, on joue aux cartes pour attendre. Et le fait que ce soit un jeu qui était utilisé et au Maroc et en Espagne, ça permettait de faire le lien comme ça entre le contexte où j'exposais et les origines de la pièce. Et les cartes, au début, devaient être posées sur ces socles-là, qui auraient été dans les dimensions de ces plateformes de tente qui étaient à Ibiza. Et ça s'est transformé en cours de route parce que les plateformes étaient détruites et donc ça changeait tout le geste. En fait, le geste n'était plus le même.
Et d'où venait justement à l'origine la question du socle, puisque vous êtes parti d'une conversation ensemble à Barcelone, mm-hmm. des socles pour les sculptures.
Oui.
Et ce qui est intéressant, parce que justement, ça semble quelque chose de très convenu aujourd'hui, évidemment, parce que très répandu dans le champ de l'art contemporain. Ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'installation, qui a en quelque sorte remplacé ce qu'on appelait autrefois la sculpture. Ça veut dire des objets en volume qui n'ont plus de socle. Donc c'est intéressant parce que justement, je trouvais qu'il y avait aussi un clin d'œil Giacometti dans cette œuvre, puisque enfin, je suis en train de rappeler une analyse que l'historienne d'art Rosalind Krauss a fait dans un livre qui s'appelle Bachelors, ou Les Célibataires, où elle considère que c'était Giacometti qui était le premier se débarrasser justement du socle et de produire avec ces objets en sculpture un objet qui serait mis ni socle ni sculpture, où le socle est en quelque sorte contenu dans l'objet même, et qui passe par, curieusement, toute une série d'objets surréalistes qui sont empruntés du plateau de jeu, des formes de damier, où le damier même prend la place justement du socle, et le jeu qui du coup crée un autre rapport avec le spectateur, qui casse justement cette hiérarchie que le socle représentait. Donc c'était intéressant justement cette référence en pensant à ce jeu de quatre, à même le sol, ou ces quatre de se poser, poser sur le sol.
Ce qui était intéressant quand j'avais entendu parler de ces plateformes, donc de ces socles pour tentes, puisqu'on peut parler de ça, c'est que les tentes étaient absentes et que l'objet même qui est censé être dessus n'était pas là. Donc c'est vrai que la question d'enlever ou de c'est encore autre chose, mais...
Mais est-ce que tout le monde a compris de quoi on parle, cette pièce? Ça veut dire que c'est une plateforme en béton dans un encampement, oui. N'est-ce pas? Enfin, c'était écrit sur le cartel, j'imagine.
Alors, c'est des plateformes comme ça et sur lesquelles ils plantaient les tentes.
Pour des soldats marocains.
Voilà, qui ont combattu sous Franco. Oui. Ouais, c'était assez. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce socle-là, c'est qu'il n'y a pas, la tente est absente, les soldats sont absents parce que l'histoire a passé, à moins qu'il y ait quelques fantômes qui traînent par là, mais c'est cette potentialité d'accueil qui m'intéressait au départ. Donc, qui a été ensuite, bien sûr, brisée, et donc... Le potentiel n'existe plus.
De là
plus.
Qui vient aussi l'association avec le socle pour la sculpture.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Donc, vous avez évoqué à peu près souvent les artistes occidentaux. Quelle est l'influence des artistes orientaux sur votre création?
Alors,
j'ai une deuxième question. La deuxième, quelle est l'empreinte orientale dans vos œuvres?
Alors, ça, c'est de la question. Alors, il y a, on parlait de résistance tout au début. Et j'ai énormément de résistance à aller attaquer l'histoire de ma culture d'origine. J'ai essayé ce que j'ai vécu comme une différence et en même temps une souffrance un peu toute ma vie. J'ai décidé de le garder tel quel, au maximum de ce que je pouvais garder. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je m'y attaque. J'ai essayé de la garder au maximum pour pouvoir déjà en finir avec ça. Et ensuite, on va dire le cœur léger, je vais pouvoir m'attaquer à cette histoire-là. Je dis m'attaquer à ça parce que c'est sûr que là, je suis obligée de parler de mon histoire pour expliquer ma façon d'agir par rapport à cette culture. C'est que on est venu avec mes parents pour des raisons économiques. En France, j'avais 3 ans et demi. Qu'ensuite, mes parents m'ont élevée dans un souci d'intégration, c'est-à-dire qu'on ne parlait plus l'arabe à la maison, on ne parlait plus que le français. Je ne fréquentais pas de jeunes arabes, d'enfants de mon âge. J'avais essayé une fois, puis j'ai eu une bagarre et ça m'a complètement choquée, puis j'ai arrêté, puis de toute façon je sortais pas, j'étais extrêmement timide. Et donc voilà, ça d'une part. Et j'avais mis beaucoup d'espoir quand je suis retournée au Maroc, je crois la première fois j'avais à peu près 10 ans. Et à 10 ans, je me suis retrouvée dans un pays où on ne comprenait pas quand je parlais, parce que je parlais avec des bribes d'arabe de mon enfance, de ma petite enfance, et on me regardait bizarrement parce que je n'étais pas marocaine pour eux. C'était des choses qui étaient très différentes. En plus, le temps a fait que chaque chose que je regardais là-bas était un mélange de souvenirs, un mélange de trucs bizarres, que ça aille des pains de sucre qu'ils utilisent, que c'est des choses que j'utilise dans mon travail, les pains de sucre de 2 kilos qui ont l'air d'obus. Quand ils préparent le thé, c'est ma grand-mère, elle avait pris un énorme pain de sucre, comme ça, qui est une espèce de truc très phallique, comme ça, puis elle le cassait pour mettre des cailloux de sucre dans les théières. Ce truc-là, je regardais ça avec les yeux écarquillés en me disant, mais qu'est-ce que c'est bizarre, quoi. Nous, on a des morceaux de sucre qu'on met de façon individuelle, comme ça, dans les tasses. Et au début, cette étrangeté-là, cette impression d'avoir cette même l'impression d'étrangeté que j'avais quand je retournais au Maroc face aux objets, et de l'autre côté, quand j'étais arrivée en France et que j'ai dû un peu tout apprendre, c'est-à-dire la fête de Noël, par exemple. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement choquant pour une petite fille qui ne connaît pas Noël. C'est-à-dire qu'on nous force à aller à côté d'un mec avec une barbe blanche fausse et on te donne un cadeau. Il y a tellement de lumière partout et des chants, etc. Et je me demandais quand même ce qu'on fabriquait. Donc c'était en même temps des fêtes. Donc c'était un peu bizarre ce que j'étais avec le travail de mon père. Donc c'était un Noël, une fête de Noël un peu spectaculaire comme ça. Mais c'était vraiment un gros choc. Et plein de petites choses comme ça. Plein de petites habitudes, des petits objets. J'ai dû apprendre tous les mots. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre comme ça petit à petit, tout en perdant de l'autre côté de ma culture d'origine. Et ce qui avait réveillé un petit peu ça, je me suis plus posé de questions vraiment après, là-dessus. J'ai essayé de me dire, j'ai pas d'amis arabes, mais en même temps, j'ai pas beaucoup d'amis non plus. J'ai laissé ça comme ça un peu en suspens. Après, j'ai pratiqué de l'athlétisme à haut niveau, et puis donc bien sûr, ça me faisait un peu bizarre que quand on parlait de moi, les références étaient des coureuses noires américaines ou les fameux fondeurs marocains qui étaient hyper connus à ce moment-là, ou Marie-Josée Perret qui courait à cette époque-là. Donc je me disais, mais d'accord, quoi. Donc et le truc qui m'avait vraiment frappé, c'est un moment on m'a surnommée Gazelle, et là ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, Gazelle, tu vois, c'est un truc africain. Je comprenais pas, puis j'avais réfléchi, puis ça me. Voilà. Donc ce qui a un peu révélé un peu tout ça, c'est en 1995, il y a eu les attentats à Paris des intégristes, des islamistes intégristes, et tout à coup, je me suis retrouvée dans la rue avec des gens qui m'ont regardée d'une manière différente. C'est très difficile à décrire, mais il y avait une paranoïa ambiante. Quand j'avais mon sac à dos et sur le dos et que je rentrais dans le bus, on me regardait. Et avant, je n'avais jamais remarqué que je pouvais être arabe quelque part. J'avais oublié un peu ce truc-là. Et là, tout à coup, je me suis retrouvée par rapport à ça. Donc j'ai regardé autour de moi, dans mon école d'art, on était 2 arabes. Et avant, ça ne me choquait pas. Tout à coup, ça me choquait. Et donc, j'ai essayé de retourner dans les quartiers de Grenoble. essayer un peu d'emprunter des cassettes de musique, faire des trucs bêtes un petit peu comme ça, ou d'aller retrouver des épices. Et puis, bien sûr, on m'engueulait parce que je parlais pas l'arabe. Hein, comment, t'as pas honte, etc. Là, là. Et de l'autre côté, c'était énormément de choses à apprendre. Donc la décision que j'ai prise après ça, qui est une décision que je peux formuler uniquement maintenant, qui n'était pas vraiment quelque chose que je pouvais vraiment formuler, mais qui était une décision un peu à défaut, c'était de ne pas aller me plonger complètement dans cette histoire-là. Donc en deuxième année au Beaux-Arts, j'ai découvert l'art musulman. Donc j'ai attaqué les livres, j'ai regardé un peu l'histoire, j'ai regardé cette histoire du geste, cette histoire de l'ornement également qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai travaillé par la suite dans des pièces comme Dérive, qui est justement une déconstruction de l'ornement symétrique. Et je ne pouvais intervenir que comme ça, c'est-à-dire un peu comme une mauvaise élève. C'est un peu comme et je revendique vraiment ça parce que je pense que cette légèreté qui est de ne pas jouer le jeu de la double culture, parce que ce qu'on attend souvent des enfants issus de l'immigration, c'est qu'ils ont deux cultures, ils sont hyper riches quoi, ils ont 1+1. Et moi, dans la réalité de ce que je vivais et de ce que vivaient je pense pas mal de gens, c'est qu'on se retrouve avec plutôt moins 1, très proche de 0 d'un côté et très proche de 0 de l'autre côté. Donc au total, on n'a pas deux cultures, mais on n'en a même pas une, je dirais. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je peux garder comme ça pour le moment encore précieusement comme étant une force face à des personnes qui vont essayer de m'étiqueter très vite. Ma première exposition personnelle, c'était à Paris, dans un petit espace. Il y a quelqu'un qui m'a dit « mais vous parlez remarquablement bien le français ». Et c'est des choses que je garde. Quand on a fait l'exposition avec le post-diplôme au Centre d'art de la photographie à Paris, j'avais choisi de montrer, au lieu d'écrire un texte ou de faire intervenir un critique d'art, j'avais choisi de faire un monologue en arabe et de le faire traduire en français. Ça, c'était sur une page. Sur la deuxième page, c'était un certificat de vie que j'ai obtenu en allant au consulat du Maroc à Paris. Et j'ai dit, je voudrais un certificat de vie. C'est un papier qui atteste que je suis vivante. Et j'ai trouvé ça étonnant, ça aussi, comme papier. Donc vivante au regard du royaume du Maroc dans son consulat à Paris. Donc, c'est le Maroc à Paris le Maroc en France qui me dit « mais vous êtes bien vivante, vous nous l'avez prouvé aujourd'hui en vous étant présentée devant nous ». Et le texte que j'ai fait traduire, donc j'ai appelé quelqu'un qui est Faisal Bakrich, qui est un artiste d'origine algérienne, qui parle super bien l'arabe, c'est extraordinaire. Donc je l'ai appelé, on a fait ça par téléphone, parce que je suis extrêmement timide quand je parle l'arabe, parce que je parle vraiment très, très mal. Et j'ai commencé à parler un peu de mon histoire. J'avais quelques photos de mon enfance qui me servaient un peu à parler. Et j'ai fait traduire. Et le résultat de ça, c'est un texte comme ça en petit français, qu'on appelle aussi un peu petit nègre, où c'est un texte qui est très mal écrit. Et donc c'était une façon pour moi de dire, si vous voulez me mettre dans la culture, on va dire, arabe, ou dans mon origine arabe à 100%, je vous montre par juste cette traduction de mon monologue que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas lisible. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas si simple dans un sens. Et cette complexité-là, je la revendique vraiment. Et je la revendique personnellement parce que je n'ai pas la même histoire que... qui on peut citer dans les artistes contemporains que Mounir Fatmi qui est venu très tardivement en France, il avait je pense 15 ans, que Bouchra Khalil qui est venu étudier à l'université puis ensuite aux Beaux-Arts de Cergy, elle avait 18 ans, que Adèle Adessamed qui a passé la majorité de sa vie en Algérie, que ces gens qui n'ont pas du tout la même histoire que moi. Pas du tout. Moi, je suis une déracinée. C'est cette absence de racine que j'utilise vraiment comme quelque chose de précieux. Et quand j'aurai réglé ça, c'est-à-dire quand j'aurai épuisé quelque part mon sac de déchets, de bribes, de souvenirs, de Donc le sucre, c'est terminé, j'ai fait. Le couscous, le tapis en polyester là, qu'on achète à 5 francs sur les marchés, qu'on accroche chez soi comme si c'était représentant de la culture orientale, alors que c'est super mal fait. Le verre à thé qui est fabriqué en Chine et qu'on utilise comme si c'était un verre à thé pour prendre du thé à la menthe marocain, c'est des choses comme ça. Quand j'aurai épuisé ces choses-là, le safran que j'ai utilisé, pas en travaillant avec le safran, mais en utilisant le colorant alimentaire synthétique, parce que dans les maisons des immigrés, on n'utilise pas de safran, c'est beaucoup trop cher. On utilise juste cette poudre orange qui est un artefact de la culture orientale. Et la plupart des objets qu'on trouve, on va dire, dans les habitations des immigrés en France, dans ce que je connais, c'est des artefacts de la culture orientale. Ce ne sont pas des tapis en soie tissés à la main qui viendraient d'Iran ou qui viendraient. C'est pas du tout ces tapis-là. On n'est pas dans cette grande histoire de l'art et histoire de la culture orientale. On est dans des résidus bon marché d'un artefact oriental. Et je veux rester proche de ça. Et quand j'aurai fini tous ces matériaux-là, puis j'aurai épuisé, parce que de toute façon, après, je n'ai pas rencontré tant de choses que ça dans ma vie, je pourrai enfin, ce que je me dis, je finirai par devenir une poète arabe quand j'aurai appris la langue. Et donc voilà, ça, c'est mon objectif quand j'aurai 80 ans. Mais pas tout de suite. Pour le moment, j'aime bien ce statut, justement, d'être, de ne pas être entre deux, mais d'être nulle part.